film du mois dont nous parlerons, deux bien que très différents de sujets de traitement, sont sous le signe d'une thématique commune, celui de la femme en pays d'islam. Puisqu'il s'agit de Wajda, film saoudien de la saoudienne Haifa Al-Mansour, et de Singe Sabour, Pierre de Patience, film franco-afghan du cinéaste-écrivain en exil à Tikraimi. Le troisième film de notre sélection sera d'une nature tout à fait différente, puisqu'il s'agit de La poussière du temps, le dernier film de Théo Angelopoulos, resté longtemps dans les cartons. Et nous terminons par quelques coups de cœur. Bon, on va donc commencer par Wajda, qui, sous son apparence de petit film tourné sans grands moyens, est en train de devenir un peu un événement cinématographique, puisqu'il a déjà dépassé les 200 000 spectateurs. Niveau de fréquentation auquel bien des films de cinéma d'auteur, et bien même cinéma commercial, voudraient accéder. Je pense que sa présentation commerciale comme film d'une femme saoudienne, premier film d'une femme saoudienne dans un pays qui n'a pas de cinéma, il est sans doute pour quelque chose, mais je pense que s'y ajoute aussi le fait que c'est un film plein de grâce et de simplicité. Que cette histoire de petite fille qui veut s'acheter un vélo dans un pays où les petites filles n'ont pas le droit de faire du vélo. Ce film d'ailleurs n'est pas sans rappeler le ballon blanc de Jafar Panahi en 1955. Ceci dit, bien qu'ayant eu la caméra d'or à Cannes, le ballon blanc est loin d'avoir connu le succès de Wajda. Alors pourquoi le film de Haifa Al-Mansour suscite-t-il un tel enthousiasme ? Tatiana, qu'est-ce que tu en penses ? Et toi, est-ce que tu partages cet enthousiasme ?
Je le partage. Et comment ne pas parler de Wajda ? Car, parce que, comme tu le dis, c'est le premier film de l'histoire du cinéma en Arabie Saoudite. Et plus étonnant, un premier film réalisé par une femme. Donc, Haifa Al-Mansour, la réalisatrice, est une belle jeune femme. Elle a 38 ans. Elle est mariée à un diplomate américain. Elle dit qu'elle a eu la chance d'échapper au destin tout tracé des femmes de son pays. Elle a grandi entre 11 frères et sœurs dans une famille progressiste, bien que respectant la tradition, qui a poussé ses enfants à faire des études, à se faire confiance et à ne pas craindre d'affronter le monde. Bon, elle a déjà réalisé 3 courts-métrages et un documentaire qui a été primé, mais elle a eu envie de tourner une fiction sur la réalité de son pays. Elle a mis 5 ans pour y parvenir, avec les difficultés qu'on peut imaginer pour les scènes d'extérieur. Toujours dissimulée sous une abaya, elle dirigeait ses comédiens par téléphone ou à l'aide d'un mégaphone depuis une camionnette. Une femme ne donne pas d'ordre à un homme. Donc son propos est clair. Elle ne souhaitait pas sombrer dans tous les clichés du cinéma du monde arabe. Pas de femme victime, pas de pathos, pas de surenchère larmoyante. Pour traiter son sujet, qui est l'émancipation et la condition féminine en Arabie Saoudite, elle a choisi pour incarner son héroïne une fillette de 12 ans. Au tempérament aussi combatif que le sien. Mais Wajda n'est pas une révoltée, c'est plutôt une rebelle, comme on peut le dire de l'eau, qui refuse d'être canalisée et investit le peu d'espace de liberté qui lui est laissé en se frayant un chemin à travers les obstacles. La directrice de l'école, mademoiselle Essa, gardienne d'un système oppressant et hypocrite, rabat jour après jour la liste des interdits faits aux femmes, même si là, ce ne sont que des fillettes, interdiction de rire, de parler dans la rue, de se laisser voir par des hommes, de montrer son visage. Mais l'affrontement direct n'intéresse pas Wajda. À l'école, elle se contente de garder le silence et de détourner le regard. Elle essaye même de teinter les baskets que la directrice fustige en les teintant au feutre, mais ça ne marche pas. Cette apparente soumission lui laisse une paix relative pour mener à bien, en dehors de l'école, les entreprises qui lui tiennent à cœur, comme de courir telle une gazelle sur le trajet de l'école, de jouer avec Mohamed, un petit copain débrouillard qui lui est totalement inféodé et dont elle se moque gentiment. Et puis un jour, Wajda voit un spectacle extraordinaire. Une merveilleuse bicyclette verte qui, comme par magie, semble rouler sur le haut d'un mur. Courant pour la suivre, sur le toit de la voiture où elle est fixée, elle va jusqu'au magasin où la merveille va être mise en vente. Elle n'a pas d'argent pour l'acheter, rien n'a à attendre de ses parents qui sont opposés au projet. Alors elle met en action toute son intelligence, sa ténacité et sa malignité, on peut le dire, pour arriver à ses fins. Wajda, pour moi, c'est un film très attachant, plein d'invention et d'humour. On rit pratiquement à chaque scène. Mais c'est aussi un film très émouvant, à travers la relation de Wajda et de sa mère, faite d'amour et de complicité, de solidarité. Sur la terrasse d'où elle contemple le feu d'artifice tiré au loin pour le mariage de son père avec une deuxième femme, c'est Wajda qui devient le soutien de sa mère, son ami, son alter ego.
Oui, donc ce film, apparemment, tu l'as beaucoup aimé. François et Jean-Michel, vous aussi, globalement, votre réaction sont positives ?
Oui. Oui, oui, tout à fait positive.
Oui, moi aussi. Moi aussi, ouais. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que c'est un bon film, de cinéma. J'ai été frappée, ce qui m'a frappée, c'est de voir que la vie quotidienne présentée par la réalisatrice a l'air tellement normale, ça a l'air tellement serein, et ça m'a frappée. Ainsi que l'opposition entre la modernité du cadre de vie, la richesse, et puis l'archaïsme des esprits. J'ai été stupéfiée. Et je me suis dit qu'il y avait de l'humour noir quand on disait aux jeunes filles, aux fillettes de l'école, « Ne parlez pas si fort, les hommes pourraient vous entendre. Il n'y a aucun risque, les hommes ils n'entendent rien. » Et quand on dit aux petites filles, rentrez, les hommes pourraient vous voir. Mais il n'y a aucun risque, les hommes ne les voient pas, ils sont invisibles. Ça m'a paru, ouais, très curieux.
Oui, je crois que ce qui est très amusant, c'est d'une part la pertinence et la drôlerie de la petite fille dans ses relations avec ses compagnes, avec sa mère. Et puis la façon dont elle a d'enverlificoter autour du doigt son petit compagnon qui va tout faire pour la satisfaire. Et ce que j'admire dans ce film, c'est que il n'y a pas de critique frontale de la société saoudienne, il y a simplement une description. Mais c'est cette seule description pour des yeux occidentaux est totalement choquante, bien entendu.
C'est une force.
Une force extraordinaire, parce qu'on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Elle montre.
C'est sûr que si on compare à des cinéastes iraniens comme Gobadi ou Panahi, là, c'est l'attaque franche de ces cinéastes. Mais on peut se demander si elle, en étant tellement beaucoup plus soft, si finalement elle n'est pas beaucoup plus efficace que le sont les cinéastes iraniens pour faire bouger les lignes de leur pays.
Elle a possible. Eu des autorisations de tournage. Je ne sais pas si elle pourra montrer son film parce qu'il n'y a pas de cinéma en Arabie Saoudite. Il n'y a que de la télévision. Oui. Mais elle a été agréée.
Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce film, en dehors du fait que j'aime, c'est que je le trouve extrêmement particulier. En ce sens qu'il était indétachable de son auteur. C'est une espèce d'objet cinématographique qui n'est pas simplement un film. Il y a le film et il y a l'auteur. Et il y a une sorte de parallélisme entre la subversion de la petite fille et la façon subversive dont la réalisatrice a elle-même tourné le film, comme s'il y a une espèce de renvoi de balle de miroir entre le film et la réalisatrice.
Oui, c'est un film à voir. Hein. C'est un film à voir.
Oui, la petite fille a de la suite dans les idées et le rôle de l'école est magistralement montré parce que c'est très tôt que les petites filles sont conditionnées par cette espèce d'institutrice très sèche.
Tout à fait. Donc, à voir. Mais je crois d'ailleurs que c'est pas besoin de dire aux gens d'y aller. Je crois que
les gens y vont pas mal en masse déjà
et que ce film n'a pas besoin d'être vraiment très poussé. Bon, passons maintenant au second film qui concerne également un pays où règne un islam orthodoxe. C'est le film d'Atik Raimi, Singe Sabour, Pierre de Patience. Atik Raimi a tiré ce film de son roman éponyme qui avait eu le prix Goncourt en 2008. Atik Raimi d'ailleurs n'est pas un inconnu en cinéma parce qu'il avait déjà fait en 96 un film qui s'appelait Terre et Sand et qui était magnifique. Oui, on y suivait les rances d'un grand-père. Et son petit-fils, le petit-fils était sourd parce que ses tympans avaient été brisés par les détonations. Et là, on retrouve une espèce de parenté entre Terre et Cendre et puis le film d'aujourd'hui, dans la mesure où, dans l'un comme dans l'autre, il s'agit de quelqu'un qui parle à quelqu'un qui ne peut pas entendre. Parce qu'en effet, Singe Sabour met en scène un héros de guerre qui, atteint d'une balle à la nuque, est dans le coma. Et sa femme, par contre, qui, elle, est en pleine santé, si je puis dire, et elle le lave, elle s'occupe de lui, elle le nourrit, elle le soigne, elle lui parle. Et moi, je trouve ce film très impressionnant. Et toi, Françoise ?
Moi, j'ai trouvé aussi très beau, très émouvant. J'ai vu ce film un peu comme on lit un poème, ou comme on regarde un tableau, ou bien comme on prête l'oreille au récitatif dans une cantate. Il s'agit, comme tu le dis, d'une jeune femme, la très très belle Goldshiftée Farhani, qui veille le corps de son mari, plongée dans un coma profond. Elle murmure des prières, elle lit le Coran, et tandis qu'au dehors, les tirs des roquettes font rage.
Et alors la pierre de patience, qu'est-ce que c'est ?
Alors la pierre de patience, c'est une pierre qui écoute. C'est une pierre qui écoute les douleurs les plus intimes, les secrets les plus inavouables, jusqu'à saturation, puis elle explose et on est libéré. Et la jeune femme va faire de l'homme inerte sa pierre de patience. Il est bien obligé de l'écouter maintenant. Alors elle parle. Elle maudit les hommes, avide de combat. Elle supplie le Dieu de s'expliquer. Elle reproche à son mari ses absences, sa froideur, sa violence. Et surtout, elle découvre qu'elle a un corps affamé qui veut vivre et la pierre explose. Pour moi, c'est un film tableau, toute une galerie de tableaux dont on admire la subtilité des couleurs, la lumière, la composition. Le travail du chef opérateur, Thierry Arbogast, relève du grand art. Le récitatif, c'est la voix émouvante de Golshifteh Farahani. Elle sait comment moduler sa voix, comment passer du murmure des prières mécaniques à la colère, à la plainte, au rire, ou elle sait faire se briser sa voix dans la douleur. Le réalisateur dit qu'il a voulu filmer la parole. C'est une gageure. Eh bien, moi je trouve qu'il a su filmer la parole qui libère, même quand elle ne s'adresse qu'au silence. J'ai aimé ce portrait de femme qui n'a pas de nom. Peut-être parce qu'elle représente toutes les femmes asservies par des lois qui les réduisent au silence. Toutes les femmes invisibles. Elle, elle est une femme multiple. La femme multiple. Elle est celle qui épouse un homme stérile et doit se prêter à des stratagèmes humiliants pour enfanter. Elle est celle qui est répudiée par son mari. Elle est aussi la fillette de 12 ans que son père vend à un homme de 40 ans. Et j'ai aimé le personnage du jeune soldat Beg parce qu'il est à la fois le double et le révélateur de la jeune femme. L'un et l'autre sont victimes de la violence coutumière. L'un et l'autre parviennent à peine à parler. Elle, elle ne peut d'abord que murmurer les mots mécaniques de ses prières et lui n'arrive même pas à articuler son désir. La violence de leur première rencontre va faire place à la découverte de leur fragilité commune, de leur douleur de vivre, et c'est alors qu'elle se découvre la force et d'accueillir le jeune homme maladroit et de découvrir son visage de femme dans un miroir terni. Le film s'ouvre sur une cour entourée de hauts murs gris. C'est un enclos. Le film se termine sur les lèvres maquillées de rouge de la femme et sur le regard très doux qu'elle pose sur le jeune soldat qui approche. Voilà, c'est un film qui m'a profondément touchée. Et vous alors, qu'en pensez-vous ?
Oui, Jean-Michel, je crois que toi, tu n'as pas du tout réagi avec la même ferveur à ce film.
Non, pas vraiment. Je suis sensible à tout ce que tu dis, Françoise, et je pense que c'est une admirable description de ce qu'est effectivement quelque part ce film, mais pour moi, c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire que ce film m'a irrité. Je trouve qu'il faut au moins autant de patience au spectateur qu'à la pierre en question, parce que il y a de la brutalité, il y a la violence qu'on a vu un certain nombre de fois, et je suis sensible à quelque chose de neuf dans ce film, et surtout de cette provenance, c'est le dispositif. C'est-à-dire que cette très jeune et très belle femme, frustrée depuis son enfance de petite fille, va se confier à cet homme qui ne, sans doute ne l'entend pas, comme on se confierait à un psychanalyste. C'est ça qui m'a personnellement touché, et sans crainte d'être interrompue, elle va exhaler interminablement son aliénation. Mais ce que je vois de positif aussi, c'est que elle va résoudre, en tout cas sortir sa propre sexualité avec ce jeune milicien qu'elle permet, auquel elle permet de s'approcher de son cœur. Mais alors, le côté négatif à mon sens, c'est que c'est pour moi terriblement esthétisant et maniéré, et qu'il y a presque une instrumentalisation de la beauté fascinante de cette jeune femme qui, moi, m'irrite, comme je le disais tout à l'heure.
Moi, j'aimerais revenir sur le mot psychanalyse, parce qu'en effet, elle s'adresse à cette pierre de patience. On pourrait faire cette comparaison, mais je ne la ferai pas, parce que l'écoute dans la psychanalyse est certes est une écoute bienveillante. Elle est distanciée et bienveillante. Celle-ci est distanciée, mais elle est morte. Elle n'est pas bienveillante du tout. Et pour moi, c'est une différence essentielle.
C'est vrai.
Dans le processus.
Oui, mais enfin, pour continuer un peu sur ce thème de ce monologue, je trouve que c'est assez extraordinaire dans ce film, c'est que, enfin, d'une part, ce soliloque, c'est un peu vraiment le courant de conscience. On est face à un courant de conscience qui se déverse, et ça, je trouve ça très original. Et puis, ce que je trouvais très original au film, c'est que, en fait, c'est un truc unique. On est entre le monologue intérieur, où on se dit tout, ou presque tout, et le dialogue, où on parle à un autre, et où alors on a une censure. Et là, on est un espace d'entre-deux, où il y a quand même une censure, et finalement ce que le film raconte, c'est le glissement, l'évolution de cette censure à mesure que les choses avancent.
C'est vrai, il y a cette progression, mais il y a aussi le côté répétitif de la contemplation de ce visage inexpressif, avec une fin
ambiguë.
Un peu ambiguë, ambiguë. À la japonaise.
Une fin ambiguë. Tatiana, là,
Tatiana, qu'est-ce que tu...
Pour moi, c'est un film sur l'enfermement, où l'enfermement est mis en abîme. L'homme est plongé dans le commun, il a toujours été enfermé dans des carcans religieux, sociaux, culturels. Il est maintenant muré dans le silence, l'immobilité. La femme, elle, elle vit le destin des femmes de son pays. Elle est prise dans l'étau des traditions qui ne leur laissent pas d'autre possibilité que de se taire, servir et faire des enfants. Alors, l'homme devenu mutique, la femme peut raconter jour après jour ses souvenirs, ses désirs les plus intimes, jusqu'à ses secrets inavouables. La parole est libératrice. On veut y croire et on discerne des changements qui petit à petit s'opèrent en elle. Mais les mots franchissent-ils la barrière qui obture le cerveau de l'homme ? Peut-il recevoir cette confession ? Peut-elle l'amener à s'ouvrir et peut-être à comprendre, à changer ? Ou bien les rôles sont-ils à jamais distribués, le carcan millénaire trop bien bouclé ? On veut y croire jusqu'à la fin.
Eh bien, croyons-y. Croyons-y et passons au film suivant qui, alors c'est une nature tout à fait différente, c'est La poussière du temps, c'est le dernier film d'Angelopoulos. Alors, enfin, il y a 2 ou 3 ans, ressortait dans très peu de salles, malheureusement, un film qu'Ingmar Bergman avait réalisé en 1997. C'était En présence d'un clown, une vraie merveille. Ce mois-ci, grâce à Sophie Dulac, on va ressortir le dernier film de Angelopoulos, La poussière du temps, réalisé en 2005, et qui, comme le Bergman, avait connu un peu le même sort. Il avait été dans un festival, c'était Berlin, on l'a mis dans les cartons. Et là, il ressort. Et je veux dire qu'on espérait beaucoup de ce film, dans la mesure que Angelopoulos, réalisateur du voyage des comédiens, du paysage en brouillard, du pas suspendu de la cigogne, de l'éternité et un jour, et que l'on trouve également dans ce film tous ces grands thèmes, l'histoire, la frontière, l'exil, la mémoire, le temps, la mort. Alors, le bonheur est-il au bout de l'attente des addicts à Angelopoulos? Jean-Michel, toi tu m'as dit que tu es un des addicts d'Angelopoulos.
Oui, je suis un
addict. Est-ce que tu as trouvé ta drogue?
Absolument, une véritable drogue, mais je reconnais que c'est pas facile à tout moment. Alors c'est la deuxième partie d'une trilogie qui avait été commencée en 2003 avec le film Eleni, la terre qui pleure. Celui-ci est un film de 125 minutes qui est le 13e de son œuvre et qui sera le dernier, qui raconte l'exil, les séparations, les ruptures des destinées individuelles sur l'arrière-plan historique du triomphe puis de la faillite des totalitarismes européens de la deuxième partie du XXe siècle. Angelopoulos a toujours combiné le politique et le poétique, et il se décrit lui-même comme perturbé et bouleversé par les tourmentes de l'histoire et habité par les mythes de la Grèce antique qu'il allégorise dans toutes les Hélénies de ses films, si on y réfléchit bien. La poussière du temps est une épopée familiale. Un réalisateur américain, qui est William Dafoe, d'origine grecque, vient tourner à Rome un film qui devrait raconter l'histoire de ses parents. Spiros, joué par Piccoli, Eleni, joué par la lumineuse Irène Jacob, qui ont traversé la répression anticommuniste en Grèce, l'enfermement dans les camps staliniens, puis l'exil en Amérique du Nord. Ils ont vu s'effondrer, avec la chute de Berlin, leur idéal incarné par le bloc soviétique. Et le récit va nous emmener de façon complexe, en Italie successivement, en Allemagne, en Russie, en Ouzbékistan, au Canada et aux États-Unis. Le personnage principal est bien sûr Eleni, qui a rencontré au camp l'oncle Jacob, troisième personnage, véritable juif errant, qui est perdu d'amour pour elle et qui ne quittera plus son sillage, renonçant à refaire sa vie en Israël comme il le souhaitait, et la suivant en exil dans la quête d'Eleni de son mari. Donc c'est une femme emblématique et en souffrance, tiraillée entre deux hommes, une histoire d'amour tragique, et on retrouve ici tous les thèmes et variations qui alimentent la mélancolie et les obsessions du cinéaste, le voyage, les frontières, l'exil, la condition humaine, le retour éternel. Mais il est vrai que ce film doit se gagner, car il est rendu difficile à suivre en raison d'une narration délibérément désarticulée et d'une structure éclatée, flashback, flash-forward incessant, comme le flux et le reflux de la mer qui charrie des impressions et des sentiments chatoyants. Avec des personnages à peine reconnaissables dans leur jeunesse et apparaissant souvent dos dans des scènes fugaces, mais l'important n'est pas là. Il est dans ce dynamisme individuel des plans, avec le discours elliptique comme principe esthétique, le choix naturel des plans longs et des plans séquences, qui a pour le réalisateur une fonction musicale qu'accompagne de façon si poignante et si essentielle la musique de sa complice de toujours, Eleni, encore, Karen Drew. On retrouve dans ce film l'attirance d'Angelopoulos pour les mouvements de foule, les paysages de neige, et quelques images nous hanteront longtemps. La main d'Eleni qui s'agite en adieu à son petit garçon lorsque le train s'ébranle, à laquelle répondra vers la fin la même main mourante aux doigts pleurants. Le dessin de l'ange à la troisième aile détachée. Le décor désolé jonché de statues abattues après la mort de Staline. La contre-plongée sur le motard assassiné, paradigme de la violence du siècle, qui renvoie à la mort tragique d'Angelopoulos alors qu'il cherche un lieu de tournage pour le film que nous ne verrons jamais, L'autre mer.
Oui, je vois, tu es effectivement addict, comme j'avais dit au début, je pensais au début.
Oui,
moi, je dois dire qu'il fait également partie des addicts de John Dilopoulos. Je dois dire que ce film m'a complètement déconcerté, au point que je me suis demandé si ça avait été une bonne chose qu'on sorte de l'oubli. Voilà, enfin, on en parlera peut-être un petit peu. Françoise et Tatiana, comment est-ce que vous réagissez à ce film?
Moi, je n'ai ressenti aucune empathie pour ce film. J'attendais beaucoup de cette projection, comme, un peu comme si La poussière du temps, c'était le testament cinématographique de Théo Angelopoulos, même s'il ne l'a pas voulu, parce que j'admire Théo Angelopoulos. Alors, comme tous les légataires potentiels déshérités, je me donne le droit de contester l'héritage. Pour moi, c'est un indigeste pudding international où le héros, un Américain d'origine grecque, nous mène en Italie, en Allemagne, en Russie, au Canada, aux États-Unis et retour, sur les pas de ses parents, de leur destin tragique et de leurs amours contrariés à travers le XXe siècle. Cela voudrait être une élégie sur la destinée humaine, sur l'amour absolu, mais les ingrédients sont trop lourds et il y en a trop. Et le pudding ne passe pas, du moins en ce qui me concerne.
Françoise, est-ce que tu as envie de soutenir?
Non, je vais peut-être pas jusque-là. Moi, je suis sortie triste d'être déçue. Vraiment, triste d'être déçue. J'aime énormément le cinéma d'Angelopoulos et j'ai retrouvé ce que j'aime en lui, c'est-à-dire ce cinéma d'errance, de quête, de mélancolie. J'ai retrouvé également les frontières, le départ, les séparations, les amours impossibles. J'adore ça dans son cinéma, je l'ai retrouvé. Mais je l'ai retrouvé dans une espèce de fatras qui m'a perdue et j'étais horriblement déçue. J'ai trouvé que parfois même le film tourné au burlesque, la dernière séquence au ralenti du grand-père et de la petite fille, j'ai pas supporté. Mais pour sauver Angelopoulos, je veux dire que j'étais émerveillée par certains plans, en particulier quand la caméra s'élève au-dessus de la foule au moment de la mort de Staline. J'ai aimé également cet incroyable débarras où s'entassent tous les bustes de Staline. Et puis un plan magnifique où on voit les déportés du goulag, les prisonniers qui montent lentement un escalier en zigzag métallique noir sur colline blanche avec le mirador. C'est magnifique. Alors je vais rester là-dessus parce que j'aime trop Angelopoulos pour en dire du mal, mais j'étais horriblement déçue.
Mais on ne peut pas citer toutes les images et après tout,
je suis d'accord avec toi là-dessus.
D'images. Ces images qui sont évocatrices, qui vous transportent, qui vous remplissent d'émotions, et c'est ça qui pour moi domine la.
Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais j'ai été largué.
J'écoutais tout ce que tu as dit, je comprends très bien que tu l'as dit parce que je peux partager cette façon de voir. Maintenant, je veux dire, est-ce qu'il faut voir un film deux fois, trois fois pour y pénétrer? Moi, ça ne me gêne pas à la limite. Mais quand je le fais dans ce film, ce qui me gêne, c'est de l'impression que Angelopoulos se copie lui-même, qu'il fait du copier-coller avec des anciens films. Et que d'une part, il y a des scènes comme ça qui donnent l'impression de copier Angelopoulos, et que par contre, comme Françoise dit, qu'il y a des scènes à la limite du mal tourné, de l'élémentaire, comme celle où Spilos retrouve Eleni, elle est à un piano, il y a la baie vitrée derrière, on le voit qui apparaît dans le jardin, c'est une banalité de roman foudant.
Oui, j'ai pas ressenti ça du tout, mais non, la première fois que je l'ai vu, j'ai été décontenancé. Je reconnais qu'il faut peut-être connaître un peu l'œuvre d'Angelopoulos et probablement dans un film comme celui-là, ne pas se contenter d'une première impression négative, parce que la récompense vient à la seconde vision.
Il faut persévérer.
La troisième est recommandée.
Nous persévérons, Jean-Michel, je promets par amitié pour toi. Je propose maintenant qu'on passe, donc on a du temps pour passer un petit peu quelques coups de cœur, deux coups de cœur. Tatiana, je crois que tu voulais parler de Goodbye Morocco.
Oui, Goodbye Morocco, ça n'est pas un coup de cœur, disons-le, en parlant des films qui vous transportent. Mais si vous aimez les films noirs, si le Faucon Maltais figure dans votre panthéon cinématographique, alors vous apprécierez Goodbye Morocco de Nadir Moknesh. Tous les ingrédients du genre y sont réunis. La fatalité, la résurgence du passé qui empoisonne le présent. La femme manipulatrice qui joue avec des hommes faibles, dominés par leur passion pour elle ou qui dépendent d'elle pour leur survie. Elle, c'est Dounia, une femme qui est la beauté austère byzantine qui fait penser à l'icône de l'impératrice Théodora. Femme de pouvoir, elle dirige l'énorme chantier de construction d'un gigantesque complexe touristique près de Tanger. Autour d'elle, ses ouvriers sénégalais, des sans-papiers travaillant au noir. Ali, son chauffeur et âme damnée, amoureux d'elle depuis l'enfance, tel le ver épris d'une étoile, prêt à toutes les basses œuvres en échange de rares faveurs. Dimitri, son amant serbe, éternel exilé qui cherche un ancrage auprès d'elle. Quand les ouvriers mettent à jour des catacombes chrétiennes des premiers siècles et une fabuleuse fresque, Dounia projette de la vendre clandestinement pour réunir l'argent qui lui permettrait d'enlever son fils, son seul amour, sa seule faiblesse, dont son ex-mari à la garde. Tous les germes sont là pour qu'éclate le drame, et il éclate quand Gabriel, un ouvrier du chantier, disparaît.
Jean-Michel, tu as une minute pour parler de Dans la brume.
Oui, je ne vais en parler qu'une minute parce que c'est un film absolument choc, qui est le second film de Sergueï Losnitsa, qui n'a rien obtenu à Cannes, pas plus qu'un premier film, My Joy, qui était déjà une merveille. C'est un Biélorusse qui met en scène dans ce second film, pendant la Deuxième Guerre mondiale en Biélorussie, un homme qui est suspect d'avoir trahi la résistance et qui est voué à la vengeance de cette résistance, qui envoie chez lui deux partisans pour le liquider. C'est un film qui est aride, qui est austère, qui ne vous lâche pas, qui est opaque mais éclairé de l'intérieur et où le fond et la forme sont indissociables. Il est d'une sombre et envoûtante beauté et son propos est un propos éthique. C'est de développer, de déployer aux yeux du spectateur un questionnement sur la responsabilité et la culpabilité. C'est un film difficile, mais c'est un film magnifique.
Merci Jean-Michel, je crois que tu nous as donné vraiment envie d'aller voir ce Dans la brume. Je crois qu'il est venu maintenant le temps de rendre l'antenne. Merci à Françoise, merci à Tatiana, merci à Jean-Michel et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et nous vous disons donc à la prochaine fois. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes vendredis du mois de 14h à 14h30. Et notre prochaine rencontre aura donc lieu le vendredi 22 mars. À bientôt.